Chapitre 36. Le feu dans l'abîme. La Terre était déjà loin derrière et les merveilles imposantes du système jovien grandissaient rapidement devant lui quand il eut une révélation. Comment avait-il pu être aussi aveugle, aussi stupide? C'était comme s'il avait marché dans son sommeil et qu'il commençait à se réveiller. « Qui êtes-vous » cria-t-il. « Que voulez-vous? Pourquoi m'avez-vous fait cela ?» Il n'y eut pas de réponse. Et pourtant, il était sûr d'avoir été entendu. Il sentait une présence, de même qu'un homme peut dire les yeux fermés s'il est dans une pièce close ou un espace ouvert. Il y avait autour de lui l'écho ténu d'un esprit immense, d'une volonté implacable. Il cria encore dans le silence qui résonnait, et il n'y eut toujours aucune réponse directe, rien que cette impression d'être accompagné et observé. Fort bien, il trouverait lui-même les réponses. Certaines sautaient aux yeux. Qui ou quoi qu'ils fussent, ils s'intéressaient à l'humanité. Ils avaient fouillé puis enregistré ses souvenirs pour des raisons insondables. Et maintenant, ils faisaient de même avec ses émotions les plus intimes, parfois avec son aide, parfois sans qu'il le veuille. Il ne leur en voulait pas. De fait, le processus même qu'il avait subi rendait impossible une réaction aussi puérile. Il était au-delà de l'amour et de la haine, du désir et de la peur, mais il ne les avait pas oubliés. Il comprenait encore que ses émotions gouvernaient le monde dont il avait jadis fait partie. Était-ce le but de cet exercice? Si oui, à quelle fin? Il tenait maintenant sa partie dans le jeu des dieux et devait en apprendre les règles à mesure. Quatre blocs de roches nues, Sinope, Pasiphae, Carmé et Ananké, les petites lunes extérieures, traversèrent brièvement son champ de perception. Puis il y eut Elora, Lysité, Himalia et Léda à mi-distance de Jupiter, qu'il ignora. Il ne restait plus devant lui que la face grêlée de Callisto. Il fit le tour du globe ravagé, hérissé de cratères, une fois, deux fois, sondant la couche de glace et de débris grâce à des facultés dont il ignorait jusqu'ici l'existence. Sa curiosité fut bientôt satisfaite. Callisto était un monde fossile, glacé, portant encore les traces des collisions qui avaient failli le fracasser plusieurs millions d'années auparavant. Un hémisphère n'était qu'un immense cratère, une série de cercles concentriques où jadis la roche elle-même avait fondu sous le choc d'une masse venue de l'espace, faisant des vagues hautes d'un kilomètre. Quelques secondes plus tard, il était en orbite autour de Ganymède, un monde infiniment plus complexe et plus intéressant. Très proche de Callisto, presque de la même taille, il était d'un aspect complètement différent. Il y avait bien de nombreux cratères, mais la plupart semblaient avoir été littéralement labourés et nivelés. Ce qu'il y avait d'extraordinaire dans le paysage de Ganymède, c'était la présence de sillons parallèles espacés de quelques kilomètres, formant des bandes qui serpentaient à la surface du satellite. On aurait dit qu'une armée de laboureurs insensés avait parcouru Ganymède dans tous les sens. En quelques orbites, il en apprit plus sur ce monde que toutes les sondes spatiales envoyées de la Terre et classa ses informations au cas où elles seraient utiles plus tard. Un jour, il en était sûr, ce serait important, mais il ne savait pourquoi, non plus qu'il comprenait l'impulsion qui le faisait passer délibérément d'un monde à l'autre. C'est alors qu'il se sentit porté vers Europe. Il était resté jusque-là spectateur, sans guère prendre d'initiative, mais il fut soudain conscient d'un intérêt croissant, d'une volonté qui se renforçait. Même s'il n'était qu'un pantin aux mains d'un maître invisible et silencieux, une partie des pensées de celui qui le contrôlait s'infiltrait dans son esprit, peut-être à dessein. Le globe lisse et couvert d'un réseau complexe qui se précipitait vers lui ne ressemblait guère à Ganymède ni à Callisto. On l'aurait dit fait de matière organique, et le réseau qui se ramifiait et se déployait sur toute sa surface évoquait étrangement un système planétaire de veines et d'artères. Sous lui défilaient des immensités stériles et glacées, plus froides que l'Antarctique. Il eut la brève surprise d'apercevoir l'épave d'un vaisseau spatial qu'il reconnut instantanément d'après les nombreuses émissions vidéo qu'il avait analysées. C'était le malheureux Tien. Pas maintenant. Pas maintenant, il aurait tout le temps plus tard. Il s'enfonça sous la glace, dans un monde inconnu de lui et de ses contrôleurs. un monde océanique, un univers caché dont les eaux se protégeaient du vide sidéral par une croûte de glace. La glace avait en général plusieurs kilomètres d'épaisseur, mais cette armure avait des points faibles, des failles, là où elle avait été brisée, arrachée, donnant lieu à une brève bataille entre des éléments hostiles qui n'entraient en contact sur aucun autre monde du système solaire. La guerre entre la mer et l'espace aboutissait toujours à la même impasse. L'eau soudain libérée entrait en ébullition en même temps qu'elle gelait et reformait son armure. Les océans d'Europe auraient été entièrement pris par les glaces depuis longtemps sans l'influence de Jupiter, dont la force gravitationnelle pétrissait sans cesse le noyau du satellite, déchaînant les mêmes forces qui bouleversaient Io, mais se montrait ici moins féroce. En effleurant ces abîmes, il apercevait partout les traces de cet affrontement perpétuel entre la planète géante et son satellite. Il entendait et ressentait le tonnerre et les rugissements des séismes sous-marins, les vagues de pression infrasonique déclenchées par les avalanches qui balayaient les plaines abyssales. Par rapport au tumulte de l'unique océan d'Europe, les plus folles tempêtes de la Terre n'étaient plus qu'un murmure. Il était encore capable de s'émerveiller, et la première oasis fut une délicieuse surprise. Elle s'étendait sur près d'un kilomètre, le long d'un fouillis de tubes et de cheminées déposées par des sources minérales jaillissant des profondeurs, comme une parodie naturelle de château gothique, et il en montait des fluides brûlants, noirâtres, animés d'une pulsation lente, comme s'ils sortaient des battements d'un cœur gigantesque. Et comme du sang, il signalait la vie. Ces fluides bouillants repoussaient le froid mortel qui descendait de la surface, faisant apparaître au fond de l'océan un îlot de chaleur. Et ce qui était tout aussi important, ils apportaient depuis l'intérieur du satellite les éléments chimiques constitutifs de la vie. C'est là, dans un environnement où personne n'aurait cru les trouver, qu'il y avait en abondance nourriture et énergie. Pourtant, on aurait dû s'y attendre. Ils se souvenaient qu'on avait découvert, à peine une génération plus tôt, de telles oasis fertiles au fond des océans terrestres. Il en était de même sur Europe, à une échelle infiniment plus vaste et avec une diversité beaucoup plus grande. Dans la zone tropicale, proche des murailles contournées du château, s'élevaient des structures délicates, arachnéennes, analogues à des plantes, bien qu'elles fussent presque toutes capables de bouger. Parmi elles rampaient d'étranges limaces ou vers dont certains se nourrissaient des plantes, d'autres s'alimentant directement aux sources minérales qui les baignaient. Plus on s'éloignait de la chaleur, du feu souterrain où toutes ces créatures se réchauffaient, plus les organismes qu'on trouvait semblaient robustes, vivaces, un peu comme des crabes ou des araignées de mer. Des légions de biologistes auraient pu passer leur vie à étudier cette unique oasis. Au contraire des mers terrestres du Paléozoïque, ce n'était pas un environnement stable, de sorte que l'évolution y était rapide et produisait une multitude de formes fantastiques. Et toutes ces créatures étaient en sursis. Tôt ou tard, chaque fontaine de vie s'affaiblissait et mourait, tandis que les forces qui l'alimentaient changeaient de territoire. En explorant le fond des océans d'Europe, il trouva de nombreuses traces de ces tragédies. D'innombrables zones circulaires, jonchées des squelettes et des restes pétrifiés de ces créatures, signalaient que des chapitres entiers de l'évolution avaient été rayés du livre de la vie. Il vit d'énormes coquilles vides, ressemblant à des trompes contournées de la taille d'un homme, toutes sortes de coquillages bivalves et même trivalves, et des structures minérales en spirale large de plusieurs mètres, exacte contrepartie des belles ammonites qui ont mystérieusement disparu des mers terrestres à la fin du Crétacé. Il continuait à sillonner l'océan dans tous les sens, à fouiller les abîmes, et ce qu'il vit peut-être de plus étonnant fut un fleuve de lave incandescente qui s'étirait sur près de 100 kilomètres le long d'une vallée engloutie. À cette profondeur, la pression était si forte que l'eau mise en contact avec le magma chauffé à blanc était incapable de se vaporiser et que les deux liquides coexistaient en une sorte de trêve malaisée. À cet endroit, sur un autre monde et avec d'autres acteurs, quelque chose comme l'histoire de l'Égypte s'était joué bien avant l'apparition de l'homme. De même que le Nil avait apporté la vie sur un étroit ruban désertique, cette rivière de chaleur avait vivifié les profondeurs d'Europe. Le long de ses rives, sur une bande qui n'avait jamais plus de 2 kilomètres de largeur, des espèces innombrables avaient évolué, s'étaient épanouies et avait disparu, et l'une d'elles, au moins, avait laissé derrière elle un monument. Il crut d'abord que c'était encore un autre de ces amas de sels minéraux qui entouraient presque toutes les sources thermales, puis en approchant, il vit que ce n'était pas une formation naturelle, mais une structure créée par l'intelligence, ou peut-être l'instinct. Les termites terrestres élèvent des châteaux presque aussi imposants, et la toile d'une araignée est d'un dessin plus parfait. Les créatures qui avaient vécu à cet endroit devaient être fort petites, se dit-il, car l'unique entrée n'avait que 50 cm de haut. Cette entrée, un tunnel épais fait de rochers entassés, témoignait des intentions de ses constructeurs. Là, dans la lueur vacillante du fleuve de feu, non loin des rives de leur Nil en fusion, ils avaient élevé une forteresse. Et ils avaient disparu. Ils étaient partis depuis des siècles, au plus, car les murailles de la forteresse, faites de rocs aux formes irrégulières, qui avaient dû être assemblées à grand-peine, n'étaient couvertes que d'une mince couche de sels minéraux. Un indice suggérait la raison de leur départ. Une partie du toit s'était écroulée, peut-être à cause des perpétuels tremblements de terre, et dans un environnement sous-marin, un fort sans toit est complètement exposé à l'ennemi. Il ne vit aucun autre signe de vie intelligente le long du fleuve de lave, mais il aperçut un être ressemblant étrangement à un homme en train de ramper, sinon qu'il n'avait ni yeux ni narines, mais seulement une bouche énorme et dentée qui avalait sans cesse pour se nourrir l'élément liquide où elle baignait. Le long de cette étroite bande fertile perdue dans le désert des gouffres marins, des cultures avaient pu apparaître, des civilisations entières avaient pu naître, s'épanouir et mourir. Des armées avaient pu marcher ou nager au commandement des Tamerlans ou des Napoléons d'Europe. Et le reste de ce monde n'en aurait jamais rien su, car toutes les oasis de chaleur étaient isolées les unes des autres, comme les planètes le sont dans l'espace. Les créatures qui se chauffaient à la lueur du fleuve de lave et se nourrissaient aux sources minérales étaient incapables de traverser le désert hostile qui les séparait d'autres îlots de vie. S'il y avait jamais eu parmi elles des historiens ou des philosophes, ils auraient tous été convaincus d'être les seuls êtres conscients de l'univers. Pourtant, l'espace entre les oasis n'était pas entièrement dépourvu de vie, et d'autres créatures, plus robustes, affrontaient sa rigueur. Plus haut nageaient celles qui, sur Europe, correspondaient aux poissons, des torpilles effilées, avec une nageoire caudale pour se propulser et des ailerons latéraux pour se diriger, ressemblant de façon inévitable aux meilleurs navigateurs des mers terrestres. Étant donné les mêmes contraintes matérielles, l'évolution devait produire des solutions analogues, comme en témoignent le dauphin et le requin, superficiellement presque identiques, alors qu'ils viennent de branches très éloignées de l'arbre de vie. Mais il y avait néanmoins une différence évidente entre les poissons d'Europe et ceux de la Terre. Les premiers n'avaient pas de branchies, car il n'y avait guère d'oxygène à extraire des eaux où ils vivaient. De même que les créatures terrestres découvertes autour des sources minérales sous-marines, leur métabolisme était basé sur les composés du soufre, très abondant dans cet environnement quasi-volcanique. Très peu avaient des yeux. À part les lueurs vacillantes des rares coulées de lave et d'occasionnelles flambées de luminescence produites par des créatures en période de frais ou en quête d'une proie, c'était un monde aveugle. C'était aussi un monde condamné. Ses sources d'énergie étaient sporadiques, sans cesse en mouvement, et de plus, les marées sismiques qui les alimentaient s'affaiblissaient régulièrement. Même s'ils atteignaient vraiment à l'intelligence, les Européens périraient lors de la glaciation prochaine et définitive de leur planète. Ils étaient pris entre le feu et la glace.